Aujourd'hui, nous continuons notre série sur Daniel. Est-ce que vous vous souvenez de ce que nous avons vu la dernière fois? Une image là que vous avez va peut-être vous aider. Nous avons vu que Daniel et ses trois amis, Shadrach, Meshach et Abednego, lorsqu'ils étaient jeunes, étaient fidèles à Dieu dans les petites choses et dans les grandes. Malgré la pression autour d'eux, ils refusaient de se compromettre et préféraient mourir que de désobéir à Dieu. Donc vous voyez Shadrach, Meshach et Abednego dans la fournaise ardente, en compagnie de l'ange de l'Éternel. Le roi Nabucodonosor, ou Nebuchadnezzar, selon vos traductions, les avait fait jeter dans cette fournaise parce qu'ils n'avaient pas adoré la statue. Mais il a été extrêmement surpris de les voir en compagnie d'un autre homme qui ressemblait à un dieu et qui n'avait pas souffert du feu. Alors je remercie Vicky Hook, qui est là devant, pour avoir réalisé cette superbe aquarelle. Merci Vicky. C'est beau, hein? Aujourd'hui, alors là on est déjà page 4 hein, sur les diapos. Voilà. Manu m'a demandé de prêcher sur le verset 6-11. Quand Daniel apprit que ce décret avait été signé, il entra dans sa maison. Les fenêtres de sa chambre haute étant ouvertes en direction de Jérusalem, trois fois par jour, il se mettait à genoux pour prier et louer son Dieu. Il continua à le faire comme auparavant. Alors vous allez penser, on la voit venir, elle va nous enseigner de prier trois fois par jour à genoux en direction de Jérusalem comme Daniel. Hein? Il y en a combien qui ont pensé ça? C'est vrai que l'on apprend souvent cela aux enfants. Mais Manu n'a-t-il pas enseigné dimanche dernier que la vie chrétienne n'était pas une vie faite d'obligations? Donc voilà, le premier enseignement, c'est qu'on ne doit pas prendre un verset isolément et le sortir de son contexte. Voyons donc le contexte. La diapo suivante, voilà. Ça change tout avec l'image entière. Je remercie encore Vicky pour cette deuxième aquarelle merveilleuse. Et elle m'a promis qu'il y en aurait d'autres. On reconnaît immédiatement l'histoire. Qui a déjà entendu cette histoire de Daniel avec les lions? Personne? Ah si, une, deux, trois. Ah, quand même. Quand même. Pour nous rafraîchir la mémoire, on va relire toute l'histoire. Et Darius le Mède, que vous voyez là dans l'illustration, en tenue générale, âgé d'environ 62 ans, accéda au pouvoir royal. Darius jugea bon de nommer 120 satrapes pour gouverner tout le royaume. Il plaça au-dessus d'eux trois ministres, auxquels ces satrapes devaient rendre compte pour que les intérêts du roi soient préservés. Et Daniel était l'un de ces trois. Or, il se montrait plus capable que les deux autres ministres et tous les satrapes, parce qu'il y avait en lui un esprit extraordinaire. C'est pourquoi le roi songea à le mettre à la tête de tout le royaume. Voilà un changement de régime et une réorganisation. Pourquoi? Les Mèdes ont pris Babylone et renversé le roi Balthazar. Alors qu'ils étaient alliés avec la Babylonie dans le passé, pour faire tomber la Syrie par exemple. C'est les Mèdes qui ont fait tomber Ninive. Mais voilà, ce Balthazar, ils n'ont pas en grande estime. Et Dieu non plus. Hein, au chapitre 5, qu'on a sauté, on apprend comment la fin de son règne est arrivée et comment Daniel a interprété le message divin, vous savez, la main sur le mur, là, en 539 avant Jésus-Christ. Daniel avait, à cette époque, déjà plus de 80 ans. La Babylonie va se trouver incorporée à l'empire des Mèdes et des Perses qui se formait depuis des années déjà. Donc le premier roi, c'est Darius, dont on dit qu'il est Mède. Donc là, la page suivante, on voit la carte. Historiquement, les Mèdes viennent de la région d'Ecbatane. Est-ce que vous voyez Ecbatane? C'est dans la zone verte. À côté de Média, vous voyez Ecbatana. C'est bon? Les Mèdes sont les ancêtres des Kurdes. Ça vous dit peut-être quelque chose, les Kurdes. Ils se sont étendus vers l'ouest et vers la Syrie. Ils se sont ensuite étendus vers Élam et vers la Perse, à l'est, qui est l'Iran d'aujourd'hui. Puis, ils se sont donc emparés de l'Empire babylonien, qui est en rose. Ensuite, de l'Égypte, la zone mauve, et de la Lydie, la zone qui est en jaune. Donc, quand on additionne tout ça, c'est l'Empire médo-perse au fil du temps. Mais au moment où on raconte ton histoire, ils viennent juste de prendre Babylone. Donc, peu à peu, les Perses ont pris plus de puissance que les Mèdes au sein de cet empire médo-perse. On les associe toujours, c'était une alliance. Donc, on voit que Daniel, qui avait été écarté du pouvoir par Balthazar, qui ne connaissait même pas, il est mis à la tête du gouvernement. Il occupe une place de premier ministre. Les satrapes qui sont sous ses ordres sont des gouverneurs de régions au pouvoir très étendu. Continuons notre lecture. Alors les autres ministres et les satrapes se mirent à chercher un motif d'accusation contre lui dans sa manière d'administrer les affaires de l'Empire, mais ils ne purent trouver aucun motif d'accusation, ni aucune faute, car il était fidèle, de sorte qu'on ne pouvait trouver en lui ni négligence, ni faute. Ces hommes-là conclurent donc, nous ne trouverons aucun motif d'accusation contre ce Daniel, à moins que ce soit en relation avec la loi de son Dieu. J'ai une petite pause ici. Pourquoi les satrapes et les ministres cherchent-ils à comploter contre Daniel? Peut-être par jalousie, peut-être par racisme ethnique, puisque dans un empire comme ça, on est forcément multiethnique. Mais mon avis est que Daniel a dû imposer des consignes de transparence et d'intégrité morale à tous ses gouverneurs et qu'ils ne le supportent pas. Ils ne peuvent pas s'enrichir personnellement comme ils pourraient le faire dans un régime corrompu. Et pour eux, l'obstacle, c'est Daniel. On voit souvent cela en politique. Ils cherchent la faille, mais rien, aucun scandale, ni dans sa vie privée, ni dans les affaires de l'État. À part sa foi, dont il ne fait pas mystère. Continuons. Alors, ses ministres et ses satrapes se précipitèrent. J'ai dû sauter une page. Non, c'est bon ? Alors, ses ministres et ses satrapes se précipitèrent chez le roi et lui parlèrent ainsi. Que le roi Darius vive éternellement. Tous les ministres du royaume, les préfets et les satrapes, les conseillers et les gouverneurs réunis en conseil, ont décidé qu'il fallait publier un édit royal pour mettre en vigueur une interdiction stricte. Selon cet édit, quiconque, pendant les 30 jours qui suivent, adressera une prière à quelque dieu ou quelque homme que ce soit, si ce n'est à toi, Majesté, sera jeté dans la fosse au lion. Maintenant, Majesté, établis cette interdiction et signe le décret afin qu'il soit irrévocable, conformément à la loi des Mèdes et des Perses qui est immuable. Là-dessus, le roi Darius signa le décret portant l'interdiction. Alors, le complot est machiavélique. Faire un décret tel que Daniel sera obligé de désobéir. Daniel est forcément obligé de connaître cette proposition de loi puisqu'il fait partie du conseil et qu'elle est proposée en conseil. Mais il est minoritaire et il a compris que ce complot était dirigé contre lui. Il assiste impuissant au vote à la presque unanimité. Je pense qu'il a dû voter contre, mais ça ne suffit pas. Le décret interdit de prier quelqu'un d'autre que le roi pendant un mois. Et Darius, naïvement, signe. Ce décret flatte son orgueil, il ne voit pas le piège. Et Daniel n'a pas eu le temps de l'avertir avant. De plus, c'est une chose assez courante chez les peuples de l'Antiquité de déifier leur roi. C'est aussi une démonstration de puissance devant la population babylonienne, pour leur montrer qui est le maître désormais. Toute désobéissance serait interprétée comme un signe de rébellion. Évidemment, pour Daniel, c'est une situation difficile. Que peut-il faire? La loi de Dieu est incompatible avec ce décret. Continuons. Quand Daniel apprit que ce décret avait été signé, il entra dans sa maison, les fenêtres de sa chambre haute étant ouvertes en direction de Jérusalem. Trois fois par jour, il se mettait à genoux pour prier et louer son Dieu. Il continua à le faire comme auparavant. Alors ses hommes firent irruption chez lui et le surprirent en train d'invoquer et d'implorer son Dieu. Aussitôt, ils se rendirent chez le roi pour lui parler de l'interdiction royale. « N'as-tu pas signé un décret d'interdiction » dirent-ils, « stipulant que quiconque attestera dans les 30 jours une prière à quelque dieu ou homme que ce soit, si ce n'est à toi, majesté, sera jeté dans la fosse aux lions ?» Le roi répondit, « Il en est bien ainsi, conformément à la loi des Mèdes et des Perses qui est immuable. » Alors qu'a fait Daniel là? Il est rentré chez lui et il a prié. Non pas pour remercier le Seigneur pour le repas, ce qu'il faisait de toute façon, mais parce que chez lui, c'est un réflexe naturel de se tourner vers Dieu. Évidemment, c'est exactement ce qu'attendaient les espions qui l'ont suivi. Tels des paparazzi, ils l'ont surpris en flagrant délit. S'ils avaient pu prendre des photos, ils l'auraient fait. Ils ne perdent pas de temps, remarquez-le aussitôt. Ils ne laissent pas Daniel organiser sa défense. Il se dépêche d'aller le dénoncer au roi. Soit dit en passant, les méthodes des politiciens d'aujourd'hui pour faire tomber l'un d'entre eux qui devient encombrant n'ont pas changé. Je ne vous donne pas de nom, vous en avez forcément en tête. Continuons. « Eh bien, reprirent-ils devant le roi, Daniel, l'un des déportés de Juda, ne fait aucun cas de toi, majesté, car il n'a pas respecté l'interdiction que tu as signée. Trois fois par jour, il fait sa prière. » Lorsque le roi entendit ces paroles, il fut vivement peiné et il décida de délivrer Daniel. Jusqu'au coucher du soleil, il chercha à le sauver. Mais ses hommes se rendirent ensemble chez le roi et lui dirent « Sache, majesté, que la loi des Mèdes et des Perses veut que toute interdiction et tout décret promulgué par le roi soit irrévocable. » Alors le roi ordonna d'emmener Daniel et de le jeter dans la fosse aux lions. Il s'adressa à Daniel et lui dit « Puisse ton Dieu, que tu sers avec tant de persévérance, te délivrer lui-même. » Voilà, le piège se referme autour de Daniel et aussi autour du roi Darius. On voit ici qu'il aime beaucoup Daniel, qu'il a beaucoup d'estime pour lui et du respect pour sa religion. Mais il est coincé par sa loi et par sa propre signature. Il est aussi en admiration devant le courage et la persévérance de Daniel. La manière dont il parle du Dieu de Daniel est intéressante. Il dit « ton Dieu » parce que ce n'est pas le sien, mais il en parle avec beaucoup de foi. Peut-être Daniel lui a-t-il raconté l'histoire de Shadrach, Meshach et Abednego. Alors, on apporta une grosse pierre et on l'a mis devant l'entrée de la fosse. Le roi y apposa son sceau avec son anneau et ceux des hauts dignitaires, afin que rien ne puisse être changé aux dispositions prises à l'égard de Daniel. Après cela, le roi rentra dans son palais. Il passa la nuit sans manger et refusa tout divertissement. Il ne parvint pas à trouver le sommeil. Dès le point du jour, le roi se leva et se rendit en toute hâte à la fosse aux lions. Comme il s'en approchait, il appela Daniel d'une voix angoissée. « Daniel, serviteur du Dieu vivant » cria-t-il. « Ton Dieu que tu sers avec tant de persévérance a-t-il pu te délivrer des lions ?» Je crie plus fort hein, parce que la fosse est profonde. Alors Daniel répondit au roi. « Ô majesté, vis éternellement, mon Dieu a envoyé son ange qui a fermé la gueule des lions. » De sorte qu'ils ne m'ont fait aucun mal, parce que j'ai été reconnu innocent devant lui, tout comme je n'ai pas commis de faute envers toi, majesté. Là encore, on voit que cette histoire a rendu le roi encore plus malade et angoissé que Daniel lui-même. Il ne mange pas, il ne dort pas, il ne met personne dans son lit, hein, c'est ça les divertissements, c'est des questions. et il ne pense qu'à Daniel. Toute la nuit, il a espéré que le Dieu de Daniel pouvait le délivrer. Moi, je suis émerveillée devant la foi de ce Darius. Bien sûr, Daniel est vivant et peut lui répondre. Regardez à quoi Daniel attribue cette délivrance. Bien sûr, hein, Dieu. Mais parce qu'il a bonne conscience devant Dieu et devant le roi, il n'a rien à se reprocher. Il dit « J'ai été reconnu innocent devant Dieu et je n'ai pas commis de faute devant le roi. » Voilà, rien à se reprocher. Alors, le roi éprouva une grande joie et il ordonna de hisser Daniel hors de la fosse. Daniel fut donc remonté de la fosse et on ne trouva sur lui aucune blessure parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. Là-dessus, le roi ordonna de lui amener ses hommes qui avaient accusé Daniel et il les fit jeter dans la fosse aux lions avec leurs enfants et leurs femmes. Ils n'avaient pas atteint le sol de la fosse que déjà les lions s'emparèrent d'eux et leur broyèrent les os. Alors la joie du roi fait plaisir à voir. Là, il passe au-dessus de la loi des Mèdes et des Perses. Darius fait grâce et il fait justice. Il rétablit Daniel et il châtie les comploteurs. Dieu aussi fait grâce et il fait justice à travers les lions. Ces derniers, qui n'ont pas touché à Daniel, se jettent sur les coupables, ce qui prouve qu'ils n'étaient quand même pas trop bien nourris. Dieu commande aux lions. Alors le roi Darius écrivit aux gens de tous les peuples, de toutes les nations et de toutes les langues qui habitent la terre entière, que votre paix soit grande. Je décrète que dans toute l'étendue de mon royaume, on tremble de crainte devant le Dieu de Daniel, car il est le Dieu vivant qui subsiste éternellement. Son règne ne sera jamais détruit, sa souveraineté durera à toujours. Il délivre et il sauve, et il accomplit des prodiges, des signes extraordinaires dans le ciel et sur la terre, car il a délivré Daniel de la griffe des lions. Et Daniel prospéra sous le règne de Darius et sous celui de Cyrus le Perse. Ce nouveau décret de Darius ressemble à un acte de foi, et ses paroles ressemblent à celles des psaumes. D'ailleurs, nous avons un chant qui reprend ces paroles. Car il est le Dieu puissant qui vit éternellement. Hein, donc, vous voyez bien. Grâce à cet épisode, les Juifs sont en paix à Babylone. La dernière phrase clôt la partie biographique du livre de Daniel. Dieu a changé le mal en bien car il a renforcé Daniel. Alors revenons à Daniel. Quel est le secret de sa persévérance? Tout d'abord, point 1, il accepte que l'obéissance à Dieu le conduise au martyre. Il ne cherche pas à se défendre, il connaît le prix de son obéissance à Dieu. C'est dans le décret, c'est la fosse aux lions. Il garde le silence. Il aurait pu essayer de défendre sa cause auprès du roi, soit avant que le décret ne soit signé, en l'alertant sur le complot et les implications pour son peuple. C'est d'ailleurs ce qu'avait fait la reine Esther, précisément. Il aurait pu essayer de plaider sa cause devant Darius quand on l'a traîné devant lui. Mais voilà, il n'y a aucun signe qu'il l'ait fait. Il aurait pu jouer les compromis en s'abstenant de prier pendant un mois. Après tout, c'est passé un mois. Cette obéissance ferme à Dieu et cette passivité devant les hommes méchants fait penser aux nombreux martyrs de la foi juive et chrétienne, n'est-ce pas? Ils se laissent persécuter sans se défendre, ce qui paraît bien étrange aux gens du monde. Le deuxième point, il se tourne vers Dieu, parce que finalement, c'est le seul Dieu qui compte. Hein, ça ne sert à rien de s'adresser aux intermédiaires. Si on lui interdit de prier son Dieu, c'est précisément à ce moment-là qu'il faut prier. Réfléchissez, si vous apprenez que vous allez mourir en martyr, il ne vous reste plus beaucoup de temps pour vous mettre en règle avec Dieu pour les choses qui resteraient sur la conscience, pour puiser en Dieu la force et le courage de résister à la tentation. Pensons à Jésus la nuit de son arrestation. N'a-t-il pas demandé aux disciples de prier avec lui? N'a-t-il pas prié avec beaucoup d'angoisse? N'a-t-il pas demandé lui aussi que si une délivrance était possible, alors qu'il soit délivré? Bon, pour Jésus, ce n'était pas possible. Mais pour Daniel, oui. Il a été encouragé à exercer sa foi pour être délivré des lions à cause de la foi de Darius. C'est pour cela qu'il lui en est reconnaissant. Darius avait cette foi-là, que ça pouvait coller. Troisième point. Il garde une bonne conscience devant Dieu. Une bonne conscience devant Dieu et devant le roi. Si Daniel avait eu quelque chose à se reprocher, l'Esprit de Dieu le lui aurait dit et il se serait repenti. Au contraire, Daniel a su se tenir irréprochable devant les dieux, devant Dieu et devant les hommes. Devant les hommes, en politique, c'est super important de ne laisser aucune faille que l'ennemi pourrait exploiter. Mais nous avons aussi un ennemi spirituel qui se sert de chacun de nos manquements pour nous accuser. Daniel sait ça et préfère ne laisser aucune prise au diable et rester fidèle à Dieu autant qu'il le peut. Pour arriver à cela, il faut de la rigueur et de la discipline. Daniel a mis en place, c'est le point 4, oui, des disciplines dans sa vie. Comme un sportif qui s'impose lui-même un régime alimentaire, des exercices et un rythme de vie spartiate, Daniel a mis en place des disciplines. On a vu la discipline alimentaire dès le début. Pas de viande offerte aux idoles, pas d'excès de table et de boissons. Il y a la discipline morale, tout ce que la loi de Dieu ordonne, pas de mensonge, pas de vol, pas de meurtre. Le respect des lois et des règles, rester pur, être clean. Il y a enfin la discipline de piété, la lecture de la Bible, le jeûne et la prière. On va voir ça. Les disciplines de Daniel. Daniel connaît bien la parole de Dieu. C'est le premier point, voilà. Les Juifs exilés à Babylone, les plus pieux, sont partis avec leurs livres de prière et surtout avec la Torah. Ils ont construit des synagogues et ils ont enseigné les jeunes générations afin qu'elles n'oublient pas les traditions de leurs ancêtres. Mais pas seulement la loi. On sait par exemple que Jérémie a écrit aux exilés une longue lettre dans Jérémie 29, tout le chapitre. Et je vous lis le verset 1 de Jérémie 29. « Voici le contenu de la lettre envoyée de Jérusalem par le prophète Jérémie à ceux des responsables du peuple qui subsistait en exil, ainsi qu'aux prêtres, aux prophètes et à tout le peuple que Nabucodonosor avait déporté de Jérusalem à Babylone. » Daniel a forcément eu connaissance de cette lettre. Et il connaît bien l'ensemble du livre de Jérémie, et certainement aussi les autres prophètes antérieurs à Jérémie. On verra au chapitre 9 que c'est en lisant Jérémie qu'il a su que l'exil de 70 ans arrivait à sa fin. On a vu qu'il a déjà 80 ans, on est près, tout près du but. Daniel pose des actes de repentance. Tout à l'heure, Paul en a parlé, de ce chapitre 9 où on apprend que Jérémie a fait des actes de repentance en son nom et au nom du peuple de Dieu pour que Dieu fasse grâce. À ce moment-là, il est dit qu'il a pris le sac et la cendre et qu'il a jeûné. Le sac, c'est un habit en toile de jute qui gratte, qui est désagréable. Ça sert à s'humilier. Cela s'est passé la même année que notre histoire avec les lions. On ne sait pas si c'est juste avant ou juste après. Mais en tout cas, Daniel sait que Dieu est le maître de l'histoire. On sent que ce n'est pas la première fois qu'il jeûne et qu'il prie. L'année juive est ponctuée de fêtes et aussi de jours de jeûne, et en particulier le Yom Kippour. Après la chute de Jérusalem, je suis convaincue que les Juifs rescapés ont jeûné souvent. La prière régulière. Daniel priait 3 fois par jour. Nous savons tous combien cet exercice est difficile à maintenir dans notre vie. Passé les moments d'exaltation, le quotidien reprend le dessus et notre ardeur à la prière s'émousse. Pourtant, nous savons que c'est une bonne chose de prier. Alors comment faire? En créant une habitude pour nous aider. Nous avons créé une habitude de nous laver les dents, tous les jours, le corps, les cheveux, À la longue, ça nous manque si on ne le fait pas. De même, nous mangeons à heure fixe, à peu près. Nous nous levons et nous nous couchons presque tous les jours aux mêmes heures. Nous essayons de faire du sport chaque semaine, toujours le même jour. Et nous savons très bien que quand nous commençons à ne plus y aller, c'est fini parce qu'on n'a plus le courage de revenir. Se créer des habitudes nous aide à tenir les disciplines que nous nous sommes fixées. Il ne s'agit pas de légalisme parce qu'il le faut. Il s'agit de se donner les chances maximum de faire quelque chose parce que je le veux. Sentez la différence. Non pas parce qu'il le faut, mais parce que je le veux. C'est très différent, vous voyez. C'est la même attitude que Paul, qui discipline durement son corps. Pourquoi ? Parce qu'il veut gagner la course. C'est dans Philippiens. Philippiens 3, 13 à 15. Quelle course, quel prix ? Le but, c'est de garder la foi jusqu'au bout, de ne pas être pris en flagrant délit de péché ou d'abandonner. La course de Paul et celle de Daniel sont les mêmes. Quand nous verrons Jésus, que ce soit à notre mort naturelle ou le jour de son retour, comme Paul l'a évoqué tout à l'heure, nous ne voulons pas qu'il nous dise « je ne vous connais pas ». Au contraire, nous souhaitons être reconnus. Nous ne voulons pas non plus qu'il dise « je me souviens vaguement de toi, mais alors ça fait longtemps, je ne te connais pas ». Non, le seul moyen qu'il nous connaisse et qu'il nous reconnaisse, c'est de passer du temps avec lui, le plus de temps possible. Voilà pourquoi Daniel priait 3 fois par jour. Après, vous faites ce que vous voulez, n'est-ce pas ? Vous pouvez mettre en place un autre système d'habitude et une autre discipline de vie qui s'adapte à votre propre rythme. Alors, récapitulons. La vie de Daniel nous encourage, car comme lui, nous vivons dans un environnement qui ne connaît pas notre Dieu. Nous pouvons donc prendre exemple sur lui pour nous inspirer lorsque notre foi est attaquée. Nous pouvons prendre exemple sur lui pour savoir comment persévérer dans l'épreuve. Nous pouvons prendre exemple sur lui pour être prêt à donner notre vie pour notre foi avec courage. Nous pouvons prendre exemple sur lui pour garder confiance, même quand ça va mal. Nous pouvons prendre exemple sur lui pour voir au-delà des circonstances le plan de Dieu, c'est notre espérance. Nous pouvons prendre exemple sur lui pour discipliner notre vie et prendre de bonnes habitudes, de rigueur, de fidélité et de piété. Alors j'espère que tous, après avoir étudié ce mois-ci la vie de Daniel, nous avons tous envie d'être comme lui, n'est-ce pas ? Et nous allons prier pour clore ce message. Merci notre Dieu d'avoir donné ce livre de Daniel dans la Bible, pour que nous l'étudions et que nous soyons encouragés à faire comme Daniel. Alors que tant de chrétiens dans le monde sont persécutés et prêts à donner leur vie pour toi, nous te prions de leur donner le courage et la persévérance de Daniel. Et pour nous qui ne sommes pas encore dans cette situation de persécution, permets-nous de ne pas nous endormir, mais au contraire de mettre en place dans nos vies de bonnes habitudes, de rigueur morale, de piété, de lecture et de méditation de ta parole, de jeûne et de prière, de temps réguliers passés avec toi, afin de ne pas être disqualifié. Car tu es le Dieu vivant, qui subsiste éternellement. Ton règne ne sera jamais détruit. Ta souveraineté durera toujours. Tu délivres et tu sauves et tu accomplis des prodiges, des signes extraordinaires dans le ciel et sur la terre, car tu as délivré Daniel de la griffe des lions. Amen.